Même pas peur. Hier, lors des manifestations, ces trois mots ont été scandés par la foule, écrits sur nombre de pancartes en réponse aux attaques terroristes. Dans un sondage du Parisien dimanche aujourd'hui en France, à la question posée « Lequel de ces sentiments domine le plus chez vous après les derniers événements ?», 61% des personnes interrogées ont répondu « La colère » et seulement 17% « La peur ». Notre dossier consacré aujourd'hui donc à la peur et aux phobies était prévu bien avant les événements, en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho. Évidemment, il prend un tout autre sens à la lumière de la semaine qui vient de s'écouler. Avec mes invités, nous allons analyser les mécanismes de la peur pour comprendre à quoi ils correspondent et ce qui les distingue aussi de la phobie. Et toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « l'attaque ». À la une de la science aujourd'hui, l'apparition des propos haineux sur les réseaux sociaux, toujours dans le contexte des attentats. Ce week-end, le mot-clé « je suis Kouachi » était le troisième sujet le plus discuté sur Twitter. Depuis mercredi, le gouvernement encourage même les internautes à signaler les messages faisant l'apologie du terrorisme. Phénomène réel ou effet loupe? On en parle avec mes invités Guilhem Fouettillou et Jean-Marc Manac. Vos réactions dès maintenant sur le compte Twitter de La Tête au Carré. C'est Violaine Ballet qui réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Fanny Cohen-Moreau et Axel Villard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho et le psychiatre Antoine Pellissolo sont en studio à mes côtés. Bonjour à
bonjour.
Vous deux.
Bonjour.
Et puis nous sommes en duplex de Louvain en Belgique avec le professeur de psychologie Pascal de Sutter. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Même pas peur, donc ces trois mots sont devenus des slogans très forts partout dans le pays à l'occasion des marches républicaines. Comment résonnent ces mots selon vous, Antoine Pellissolo?
C'est assez troublant puisque c'est une façon d'aller plus loin que sa peur en fait. Hein. Derrière j'ai pas peur, il y a quand même j'ai peur, mais je vais combattre ma peur. Enfin, je crois que c'était assez troublant de voir notamment chez les jeunes qui avaient certaines appréhensions, le fait de pouvoir avoir cette pensée un peu, on dit, autoréalisatrice. Hein. Je dois pas avoir peur, donc j'ai pas peur.
Pascal de Sutter, pourtant les Français ne sont que 17% selon un sondage à ressentir de la peur suite aux attentats. Est-ce que ce chiffre vous surprend?
Oui, parce qu'à mon avis, il n'est pas conforme à la réalité. Je crois que, en vérité, les gens ont beaucoup plus peur que ça, mais par une forme de... On n'aime pas montrer son absence de courage, donc quelque part, on n'aime pas assumer sa peur, et je crois que c'est sous-évalué.
Sébastien Boller, on va distinguer la peur des phobies hein, également avec vous dans le dossier.
Oui, bien sûr, mais bon, effectivement, on pourra parler éventuellement de phobie, peut-être s'il y a un traumatisme pour certaines personnes, parce que les phobies parfois s'enracinent dans des traumatismes. Non, mais je pense qu'on est sans doute entre les deux positions qui viennent d'être exprimées, c'est-à-dire qu'il y a sans doute plus que 17 personnes qui ont peur.
17%.
Mais, oui, 17%. Mais la dominante, le sentiment dominant me semble effectivement pas être celui d'une véritable peur qui paralyse ou d'une peur qui pousse à fuir ou à se terrer chez soi. Il y a trois réactions possibles à la peur, hein, au niveau comportemental, soit on combat, soit on fuit, soit on est paralysé. Je pense qu'on est plutôt dans la prise d'initiative, en tout cas dans un désir de prise d'initiative, et ça donne une coloration particulière à la peur, je pense.
Allez, la peur et les phobies, c'est donc notre dossier dans quelques minutes avec les messages des auditeurs. Les propos haineux sont-ils en train de se propager sur les réseaux sociaux depuis les attentats? Les défilés n'ont, semble-t-il, pas réussi à faire taire les propos haineux sur Internet. C'est à la une de la science aujourd'hui, avec le mot-clé, je cite Kouachi, qui est resté l'un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux ce week-end. Bonjour Jean-Marc Manac.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste des questions de sécurité sur le net. À vos côtés, Guilhem Fouettillou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et cofondateur d'une start-up, Linkfluence, qui écoute et analyse le web social. Axel Villard est également là avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour.
Pour réceptionner les messages sur Twitter. Guilhem Fouettillou, on commence par les tout derniers chiffres que vous nous livrez. Est-ce que vous confirmez la diffusion des messages haineux sur les réseaux sociaux ou pas?
Alors oui, sur les réseaux sociaux, on trouvera toujours ce qu'on ira y chercher. Donc il y a des messages haineux sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il est important déjà de mettre en contexte quantitativement. Pour vous donner un ordre d'idée, on a annoncé beaucoup de chiffres sur le hashtag Je suis Charlie, plus de 5 millions. Aujourd'hui, on est à 6,6 millions de tweets dans le monde sur le hashtag Je suis Charlie. C'est sans précédent pour la France. Ce n'est pas sans précédent au niveau mondial, contrairement à certaines informations qui ont été diffusées il y a quelques jours. Si on rajoute les tweets dans lesquels il y a des hashtags Charlie Hebdo ou même les gens qui parlent de Charlie Hebdo, on dépasse les 10 millions.
Ouais.
Donc c'est quelque chose d'immense. À l'opposé, le hashtag Je suis Kouachi, à midi, avant de venir vous voir, on était à peu près à 36 000. 36 000 par rapport à 10 millions. Donc c'est 0,3%. On est sur quelque chose qui est extrêmement faible. On peut se dire que c'est quand même beaucoup, 36 000. Après, il faut regarder comment ils sont composés, ces 36 000. Sur ces 36 000, vous en avez 70% qui sont effectivement pro hashtag et qui donc relaient cette information et soutiennent les assassins. Vous en avez 15% qui les dénoncent et 15% qui les commentent. Donc, genre, vous en avez plus que 70%. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 70%, ils sont le fait d'un tout petit nombre de personnes. Enfin, pas tout petit, mais en tout cas, les personnes qui les relaient ont tendance à essayer de les relayer au maximum. Donc, il y a énormément de retweets, énormément de reprises des mêmes messages par un nombre de personnes limité. Donc, le nombre de tweets est plus important que le nombre véritable de personnes qui relaient ces messages.
Ouais, en un mot, comment vous faites pour parvenir justement à observer ce phénomène ?
Eh bien, on développe des outils qui sont utilisés à la base pour suivre la réputation des grandes entreprises et qu'on utilise ici pour suivre tous les gens qui utilisent ces hashtags, ces mots-là. On suit plus de 300 millions de sources sur plus de 60 langues. Donc imaginez une forme de très gros moteur de recherche comme Google, mais qui est utilisé à des fins pour du marketing, pour du suivi de l'opinion ou pour des sciences humaines et sciences sociales, vu que c'est aussi ce genre d'outils qui sont utilisés au Media Lab de Sciences Po.
Jean-Marc Manax, cette montée de la haine sur les réseaux sociaux, c'est un phénomène significatif, alors selon vous, au regard par exemple de ces résultats ?
Je ne peux pas dire que c'est significatif. C'est révélateur, mais pas significatif. Si on revient avec la première polémique qu'il y avait eu sur un bon juif, le hashtag un bon juif avait été lancé par quelqu'un qui se présentait comme petit con, qui le lundi faisait des blagues sur les noirs, le mardi sur les femmes, le mercredi sur les homosexuels, le jeudi sur les juifs, et on a retenu essentiellement le hashtag un bon juif. Et donc, il faut bien comprendre que, notamment du côté des jeunes, des petits cons qui sévissent sur les réseaux sociaux, ils sont des fans, enfin, il y en a un certain nombre qui sont vraiment des trolls. Des trolls, c'est-à-dire des gens qui font des mauvaises blagues, qui font de l'humour noir, qui cherchent la provocation.
C'est la grande majorité des profils ou pas ?
Il y a une partie des profils qui sont des vrais djihadistes qui sont en Syrie, qui sont en train de se battre. Il y en a une autre qui sont des musulmans qui s'estiment choqués par l'opération Je suis Charlie et qui ne comprennent pas la différence entre les assassins et les attaques contre l'islam ou qui sont choqués par les unes de Charlie Hebdo. Et il y en a d'autres qui vont être des petits cons, des gens qui vont effectivement chercher à troller, à faire de l'humour noir. Mais on ne peut pas dire que sur les 37 000, ça ne veut pas dire qu'il y a 37 000 djihadistes, loin de là. Il y a quelques centaines de gens qui se définissent ou qui se reconnaissent dans le combat des djihadistes, qu'ils soient là-bas ou qu'ils ne soient pas là-bas ou qu'ils soient anonymes sur Twitter. Mais il faut bien comprendre que c'est un épiphénomène par rapport à tout le volet médiatique, à l'exposition médiatique qu'il y a, exactement comme pour le hashtag en bon juif, où paradoxalement, le fait que l'UEJF porte plainte, essaye de saisir la justice et demande à Twitter de censurer le hashtag en bon juif, a décuplé l'audience et le fait que c'était repris par les médias du monde entier. Et paradoxalement, cette campagne contre le hashtag en bon juif a fait que les tweets antisémites se sont retrouvés à la une des médias et également à la télévision.
Donc, Guilhem Fouettehu, il y a un effet loop.
Il y a un effet loop qui est extrêmement important, qui est habituel et pour lequel les médias sont effectivement responsables. Ils doivent être extrêmement attentifs sur cet élément-là. Quand on a vu des articles de médias en ligne, de grands médias sur leur version en ligne, qui dès le mercredi reprenaient certains de ces tweets et faisaient des articles sur Le Figaro, sur d'autres, disant voilà des tweets haineux, eh bien ça donne une exposition extrêmement forte. Et je ne peux que prolonger ce que vient de dire Jean-Marc Manac. La majorité, ce sont des gamins, ce sont des collégiens qui font les malins, qui font les trolls et qui cherchent juste à choquer la maîtresse, à choquer l'autorité.
Ouais. Alors Axel, on en discute sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque, justement.
Sur Twitter, avec le mot-clé l'attaque, on nous propose une autre lecture qui est celle de la reprise médiatique et de l'exaspération. Par exemple, Tastoun nous dit « Pas étonnant, vu la récupération qu'on a fait de Je suis Charlie, que certaines prennent le contre-pied avec Je suis Kouachi », une sorte d'exaspération du Je suis Charlie.
Jean-Marc Manac.
Il y en a qui ont eu marre de ce côté consensuel. Parce qu'effectivement, c'était l'Union nationale. Il y a des gens qui ont défilé hier à Charlie. Et même des dessinateurs de Charlie Hebdo disaient mais c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, on a l'armée. Hier, ce qui était assez étonnant quand on se baladait dans la manifestation à Paris, quand on manifestait, c'était. Enfin, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'était de voir que les manifestants applaudissaient le plus, c'était les CRS et les policiers et les gendarmes mobiles. Chose qui ne correspond pas du tout à l'esprit de Charlie, mais qui en même temps correspond vraiment à l'union sacrée qu'on est en train de vivre, en tout cas depuis quelques jours. Et donc, il y a certaines personnes qui ne se reconnaissent pas là-dedans et qui, précisément pour choquer la ménagère, le prof ou les parents, font exactement l'inverse.
Ouais. Guilhem Fouettehu, le gouvernement a annoncé plus de contrôle à venir sur les réseaux sociaux, invite même les internautes à signaler les messages haineux. C'est nécessaire alors ou pas, selon vous ?
C'est totalement nécessaire, parce que derrière, il y a une question aussi d'éducation. C'est-à-dire que ces phrases-là, il faut que même des gamins irresponsables comprennent que dire cela sur Twitter, ça peut potentiellement avoir une audience mondiale. Mmh. Donc il y a une responsabilité des médias qui font un effet de loupe grossissante, mais ça ne déresponsabilise pas pour autant ces gamins. Et aujourd'hui, il y a eu une condamnation à Strasbourg qui a déjà eu lieu. Je pense qu'il va falloir faire très attention qu'on ne surréagisse pas et que surtout qu'on n'aille pas, on parle de 7 ans de prison, c'est délirant. Mais il va falloir taper sur les doigts avec une règle de ces gens-là en leur disant « Vous êtes comptable de vos paroles, vous êtes comptable de vos actes. » Mercredi, jeudi, je crois, Le Monde a annoncé que 3508 avaient déjà été identifiés par le ministère de l'Intérieur.
Avait été dénoncé au ministère de l'Intérieur, qui ensuite va enquêter pour savoir si réellement ce sont des gens qui font de l'apologie du terrorisme ou pas.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire aussi sur l'usage des réseaux sociaux ? Parce qu'en fait, c'est aussi ça ce qui ressort de ces événements, non ?
La plupart de ces personnes ne font pas la différence entre espace public et espace privé, ne se rendent pas compte. Twitter est utilisé souvent comme une discussion dans un bar PMU ou dans une cour d'école, et les gens ne voient pas forcément que c'est un média et que donc ils sont comptables de ce qu'ils disent. Ça se joue dans les écoles, ça se joue dans les médias où il faut éduquer, et il faut dire que les plateformes ne nous aident pas beaucoup à ça, parce qu'un espace comme Facebook, l'intérêt de Facebook en tant qu'entreprise, c'est justement de faire tomber cette barrière entre le privé et le public, et il est très difficile, même pour quelqu'un qui a fait une thèse sur le sujet, d'être capable de savoir exactement quelle est la portée de ces messages lorsqu'ils partent sur Facebook. Est-ce qu'il est dans du privé, est-ce qu'il est dans du public ou dans du semi-public ?
En tout cas, la plateforme gouvernementale, c'est Pharos, en l'occurrence, avec un site qui est disponible.
Et en parlant de Facebook, sur Twitter, André Blaise nous dit que Facebook ne supprime pas les messages que les internautes lui signalent comme étant un caractère douteux. Est-ce qu'on ne se demande pas à quoi ça sert de signaler dans ce cas-là ?
Ouais, Jean-Marc Manac, pour terminer là-dessus.
C'est pas tout à fait vrai au sens. Il y a des messages qui sont supprimés, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Après, il faut bien comprendre qu'il y a tellement de notifications que c'est pas forcément dans l'instant que ça va se faire. Et puis après, c'est parce qu'il y a aussi Twitter et Facebook peuvent se réserver le droit de décider est-ce que c'est de l'humour ou est-ce que c'est réellement de l'apologie sur le terrorisme. Après, juste un point sur le côté éducatif. Il faut bien comprendre que du côté de l'éducation nationale et des pouvoirs publics, depuis des années, le maître mot, c'était ne parlez pas sur les réseaux sociaux, fais attention, il y a des pédophiles sur Internet. C'est-à-dire que c'était un discours de diabolisation. Ça n'a pas du tout empêché les jeunes d'aller sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut apprendre, effectivement, c'est qu'on s'exprime en public. Et que dès lors qu'on s'exprime en public, on peut avoir une plainte pour diffamation, pour atteinte à la vie privée. Et ça n'a pas été effectivement expliqué aux gens. Il faut bien comprendre qu'on prend des responsabilités quand on s'exprime, mais ça ne veut pas dire que le net et les réseaux sociaux sont truffés de terroristes.
Jean-Marc Manac et Guilhem Fouettillou, merci beaucoup pour votre décryptage aujourd'hui à la Une de la Science. Merci Axel.
Merci.
Et vous poursuivez les discussions sur le mot-clé l'attaque. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la baleine boréale pourrait vivre jusqu'à 200 ans. C'est en tout cas ce qu'affirment des chercheurs de l'université de Liverpool. Ils ont publié mardi leur étude dans la revue Cell Reports. Grâce au décryptage du génome de la baleine, ils ont montré que cette exceptionnelle longévité est en partie expliquée par un système de défense immunitaire assez développé, notamment contre les cancers et les maladies neurodégénératives. Un implant pour faire remarcher des rats paraplégiques, c'est la prouesse qu'ont réussi des chercheurs de l'université de Lausanne. Cet implant baptisé Edura s'installe directement à la surface de la moelle épinière ou du cerveau. Il imite parfaitement le tissu vivant et cela évite les éventuels frottements entre les tissus nerveux. L'objectif est maintenant évidemment d'adapter cet implant à l'homme. Et puis le stock de sang en France est faible puisqu'il est tombé à 11 jours. Situation d'autant plus sensible que le mois de janvier est traditionnellement une période marquée par les épidémies saisonnières qui empêchent donc un certain nombre de donneurs de venir proposer leur sang. L'établissement français du sang lance donc un appel aux dons. Pour connaître la collecte de sang la plus proche de chez vous, et bien c'est dondusang.net, c'est en lien sur La Tête au Carré. La peur et les phobies, c'est le dossier dans un instant.
Telex machine. machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that beachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh.
Tell me why.
I don't like money.
Tell me why.
I don't like money. Today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure?
Tom Retz avec I Don't Like Mondays sur France Inter. J'espère que vous aimez les lundis avec La Tête au Carré. C'est Jean-Michel Montu qui signe la programmation musicale de l'émission.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
18 juillet. Pour Adrien Monk, commence une journée comme les autres. Il passe l'aspirateur dans son appartement, puis il nettoie l'aspirateur, puis repasse l'aspirateur.
Oui, il a ses particularités.
Par exemple ?
Il a peur de l'altitude, peur des microbes, des mouches, peur du lait.
La foule, les ascenseurs, le feu.
Les lapins, les tunnels, les ponts aussi.
Les bateaux.
Le café sans caféine.
Les éclairs.
Le vent, il a peur du vent.
Les œufs blancs.
Oui.
Les gens à poil. Celle-là, elle est dans son top 3. Je dirais la mort en 1 et les gens à poil en 2.
Voilà un joli catalogue de phobies extrait de la série Monk, la peur, les phobies. Donc c'est un dossier aujourd'hui en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho qui consacre un article à ce thème dans son dernier numéro. Alors pour en parler, mes invités, Antoine Pellissolo en studio. Vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service dans le pôle de psychiatrie du CHU Henri Mondor à Créteil. Vous enseignez également à l'université Paris-Est Créteil. Vous êtes président de l'association française des troubles anxieux et de la dépression. Et vous avez publié Les phobies, faut-il en avoir peur? C'est aux éditions du Cavalier Bleu. En ligne avec nous depuis Louvain, donc Pascal de Sutter, vous êtes professeur de psychologie à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'Institut de recherche en sciences psychologiques de l'Université de Louvain en Belgique. Et puis donc Sébastien Boller, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Cerveau et Psycho. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec les messages franceinter.fr, toujours les réseaux et le mot-clé l'attaque. Sébastien, donc je le disais tout à l'heure, ce dossier avec vous en partenariat avec Cerveau et Psycho était prévu de longue date et c'est vrai que ce thème de la peur, ben là tout d'un coup prend une autre forme avec les attentats de la semaine dernière. On va voir d'ailleurs avec vous que le registre de la peur est extrêmement large. Hein.
Ah oui, c'est la peur est très difficile à définir. On peut parler de l'anxiété, de la peur, on va dire, saine, naturelle, qu'on peut rencontrer face à des dangers normaux. Et puis des phobies qui sont évidemment des cas très particuliers, complètement irrationnels. Donc c'est un des enjeux aussi de ce dossier, c'est de faire la part des choses, d'essayer de voir où se situe la limite entre une peur qui est saine, qui fait partie du registre émotionnel normal, et puis une phobie. Et puis avec l'actualité, il y a aussi la question des peurs collectives qui là ont été étudiées en psychologie des foules, en psychologie sociale, et notamment notamment depuis les attentats du 11 septembre 2001, les Américains ont fait énormément de recherches sur les réactions collectives face à la peur.
Pascal de Sutter, justement, quelle est la place de la peur collective dans ce registre extrêmement large des peurs,
hein? C'est ce qu'on appelle notamment des phobies presque de groupe, je dirais. C'est-à-dire qu'à certains moments, par exemple, notamment suite aux attentats du 11 septembre, énormément de personnes avaient peur de prendre l'avion. Et ça montre bien le côté irrationnel, parce que les gens avaient peur de prendre l'avion, mais n'avaient pas peur de monter dans un immeuble, dans une tour, alors que le nombre de morts dans la tour était plus élevé que dans l'avion. Donc ça, c'est un très bel exemple de montrer que la peur suscitée par un événement peut être totalement déconnectée d'un danger réel. Et quand ça prend effectivement de grandes ampleurs, c'est à ce moment-là qu'on parle de phobie.
Antoine Pellissolo, vous observez d'ailleurs des paradoxes dans les peurs, évidemment, des personnes qui viennent consulter.
Oui, c'est toujours très énigmatique. Pour certaines personnes, la réalité vraiment... il y a une peur qui est basée sur des éléments de réalité. Et puis chez d'autres, c'est complètement virtuel, c'est l'imaginaire. Et parce que la phobie et la peur elle-même se nourrissent de tout un tas d'éléments, qui sont des éléments rationnels dans certains cas, et d'éléments beaucoup plus irrationnels, liés à sa propre histoire, liés à des signaux qui ont été perçus. Le cerveau a la capacité à apprendre et à développer des peurs et à les calmer dans certains cas. Mmh. Et puis par moment, il y a des petits dérapages, et parfois un petit dérapage probablement provoque des conséquences assez étonnantes.
Ouais, ces peurs collectives, justement, comment elles se nourrissent?
Il y a un effet d'imitation, puisque toutes les émotions sont transmises. Voilà, toutes les émotions sont faites pour être transmises. On exprime ces émotions sur son visage pour que les autres congénères, dans notre espèce ou dans d'autres, puissent être alertés. Et donc, par définition, la peur, c'est alerter soi-même et les autres. Donc déjà, même sans parler des réseaux sociaux, des médias,
parce que c'est au-delà du visage, la façon de communiquer.
Ça se répercute, mais même déjà à la base, l'émotion est faite pour être transmise de manière très rapide, très efficace pour se protéger dans certains cas.
Oui. Sébastien ?
Oui, elle peut être transmise dans le volet de la peur, et à ce moment-là, elle donne la contagion de la peur qui peut donner de la panique, c'est une définition de la peur collective, ou aussi, dans d'autres cas, comme apparemment on est en train de le constater, un phénomène plutôt d'apaisement par les émotions positives. C'est-à-dire que si on peut être angoissé individuellement devant son écran de télévision, quand on se retrouve en force, en groupe, dans la rue, avec des émotions positives qui circulent, là, l'effet de mimésis, d'empathie, peut justement... injecter des émotions positives qui peuvent créer un effet d'apaisement. C'est peut-être ce qui explique en partie que maintenant, aujourd'hui, où on pose la question, seuls 17% des Français disent avoir réellement peur.
Oui, justement, Pascal de Sutter, est-ce que l'ampleur des marches républicaines hier et samedi partout en France disent quelque chose justement de l'ampleur également de la peur chez les citoyens ou pas?
Alors, je pense que ça rejoint plusieurs émotions, dont la peur est une des émotions. Quelque part, il y en a même certains philosophes qui disent qu'il y a deux émotions basiques qui sont la peur et l'amour. Et il y a, je crois, aussi un grand élan d'amour et de solidarité qui, effectivement, comme l'a dit mon collègue, a tendance aussi à atténuer la peur. Quand on se retrouve dans un grand groupe de gens qui applaudissent la police, qui les prennent dans les bras, et où on est vraiment tous ensemble, eh bien, on se sent quelque part plus fort. Et je pense que effectivement, tous ces gens qui ont mis « Je suis Charlie » sur eux, ils n'auraient peut-être pas osé le mettre individuellement il y a quelques mois.
Il y a plusieurs façons de conjurer la peur. Il y a le courant de sympathie collectif. Et puis, il y a ce que disait tout à l'heure notre collègue sur le fait que la foule applaudit les forces de l'ordre. Et une des façons de conjurer la peur, c'est de faire appel justement aux remparts, aux bras armés de la société, à l'autorité. Et ça, c'est une des prédictions de la théorie qui a vu le jour au terme de 200 études après les attentats du 11 septembre.
La théorie de la peur.
La théorie de la gestion de la peur. Ouais. Les réactions de l'opinion publique et des collectivités face à des traumatismes incluent une dimension qui est le soutien de la force des forces de l'ordre, y compris même jusque dans un volet autoritariste. Donc cet applaudissement des forces de l'ordre, c'est quelque chose de naturel qui a été prédit depuis longtemps par cette théorie, qui se concrétise aujourd'hui, qui peut être un réflexe de survie, un réflexe très positif, et dans certains cas qui peut en revanche avoir un revers de médaille.
Ouais, et qui est très inattendu d'ailleurs pour nous. Quel revers de médaille?
Eh bien, le repli vers des positions politiques autoritaristes et nationalistes.
Antoine Pellissolo.
Oui, puis je peux compléter. Il y a un autre aspect qui a peut-être pas été, enfin, qui est apparu dans les médias, mais dont j'ai eu un peu connaissance par mes collègues. Une autre figure importante, c'est quand même aussi la figure du père, une forme d'autorité un peu différente que juste l'autorité physique. Et je crois que notre président de la République a joué un rôle assez important d'empathie, justement, auprès des victimes notamment. Et ça a eu un rôle apparemment très, très utile, personnellement. Pour les victimes, mais de manière un petit peu plus large pour tout le monde. Je crois qu'il a représenté une figure là qui n'était pas forcément très attendue, mais qui a bien fonctionné.
Pascal de Sutter, vous qui vous intéressez beaucoup à la psychologie justement des hommes politiques, comment vous observez ça depuis la Belgique ?
Ben oui, effectivement, je pense qu'on est très touchés, en particulier les Belges francophones qui sont très proches culturellement et historiquement des Français. Donc vraiment, il y a eu d'ailleurs des mouvements ici également en Belgique par rapport à ça. Et je crois que l'attitude... j'ai également vu ces images, ça m'a frappé. Et je pense que là, pour le coup, François Hollande, qui n'a pas toujours su communiquer avec une grande efficacité ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire, a, je pense, été au meilleur de lui-même et je pense assez authentique. Et c'est à ce moment-là, quand il est dans cette figure-là, que je pense le message passe le mieux.
Est-ce que vous pensez qu'il était rassurant, justement, pour les Français ?
Oui, je pense qu'il était rassurant, parce que d'abord, sur le plan, en tout cas, de politique internationale, il a quand même toujours tenu un discours assez ferme par rapport au terrorisme et à l'islamisme. Et par ailleurs, il a su avoir ces gestes de bienveillance vis-à-vis des familles qui avaient l'air relativement spontanées et pas guindées. Or, souvent, on reproche aux figures de pouvoir d'être froid. Et là, pour le coup, il n'a pas été froid du tout.
Antoine Pellissolo, les phobies, faut-il en avoir peur ? Ça, c'est le titre de votre livre aux éditions du Cavalier Bleu, ce qui veut dire qu'il faut faire la distinction d'ailleurs entre les deux. Hein.
Tout à fait. Et puis, c'est un petit peu le clin d'œil, mais c'est un message essentiel. Il ne faut pas avoir peur des phobies, parce que plus on en a peur, plus elles sont fortes.
Et elles sont nombreuses d'ailleurs. Hein.
On en a une gamme assez large.
Bon, qu'est-ce qui les distingue de la peur, alors, fondamentalement ?
Il y a plusieurs niveaux, mais le plus clair, c'est que vous êtes phobique quand quand vous perdez le contrôle, quand votre peur prend le contrôle sur les réactions normales. Dans une situation donnée, la panique, dont on parlait tout à l'heure, je suis là, mais j'ai qu'une envie, c'est de partir, et donc je fais n'importe quoi. Et même en dehors de la situation elle-même, j'anticipe la situation comme étant dangereuse, non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce que j'en ai peur. Donc on raisonne différemment. Et là, il y a un changement un peu qualitatif. Il y a aussi quantitativement, hein, des phobiques ont beaucoup plus peur que des non-phobiques, c'est sûr, mais il y a un mode particulier qui est le mode phobie, ou le mode panique, qui se déclenche chez certaines personnes, et qui est sûrement dû à une multitude de facteurs, mais probablement une mayonnaise particulière.
Ouais, Pascal de Sutter, pour compléter là-dessus, puisque c'est vous qui signez l'article justement dans Cerveau Psycho, sur cette distinction entre la peur et les phobies.
Ben effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qui sont phobiques, ils ont souvent peur, pas tellement de l'objet lui-même, mais de leur propre réaction. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'un moment être tellement en hyperventilation suite au stress de cette peur qu'ils vont peut-être s'évanouir, ils vont se ridiculiser en public, ils vont avoir des comportements inappropriés, ils vont rougir, ils vont être mal. Et donc ça distingue aussi d'une peur classique où quelque chose, un élément précis nous fait peur. Et là, on a vraiment presque peur de la peur.
Sébastien ?
Oui, tout a été dit, vraiment. Si on essaie de donner quelques critères quand même à ceux qui nous lisent pour distinguer une peur, on va dire, exagérée, par exemple chez un enfant, d'un début de phobie, et ce que vous venez de dire. Et puis aussi, bon, essayer d'apprécier l'intensité de la réaction, parce qu'il y a des cas où une réaction d'un enfant, par exemple, face à une araignée ou face à une guêpe, peut être naturelle. Un enfant se met à crier, à avoir très peur, à vouloir s'enfuir. Mais s'il perd complètement le contrôle, si son cri a quelque chose qui ne décroît pas avec la durée, et si on n'arrive pas à le raisonner. Voilà, ça, ce sont des petits détails qui, mis bout à bout, peuvent commencer à alerter, par exemple, un parent ou même un adulte sur sa propre réaction. Donc, il y a évaluer la véritable dangerosité du stimulus et évaluer l'ampleur plus ou moins adaptée de la réaction. C'est deux aspects sur lesquels on a cherché à insister.
Ouais. La liste des phobies est très longue, elle est parfois même amusante et inattendue. On va en parler également avec vous dans un instant. Les messages des auditeurs arrivent en ce moment même. Franceinter.fr et puis également les réseaux. Donc avec le mot-clé, l'attaque.
Tête boire, et si demain je voulais plus te voir, et si demain j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, et si demain j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et si demain c'était foutu, et si demain fallait que je parte, et si demain fallait que j'embarque dans une autre barque que la tienne, direction où le vent me mène, et si demain j'étais chômeur, et si demain j'attrapais peur, et si demain j'avais plus de thunes de plus pouvoir t'offrir la lune, et si demain ma gourmandise faisait qu'une autre que toi ne luise dans les remises de mes fantasmes, sur les gravats de mes vieilles histoires, et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, que j'avais plus besoin de que dalle.
Et si demain est plus de guerre, plus de flics et plus de soldats que les humains à part entière. Plus de président, plus de roi, plus de PDG, plus de notaire. Rien que des gens comme toi et moi, les personnes formées de chair. Pour 60 ans sur notre terre, avec deux jambes et puis deux bras, 32 dents et des choses à faire. Pourquoi pas se prendre dans les bras? Enfin baisser les barrières qui font que tu ne me vois pas, que tu restes là caché derrière des règlements et puis des lois, des dictatures et des frontières, les habitudes et les manières qui font un étranger de moi, qui me font étranger de toi. Si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, je n'aurais plus besoin que dalle.
Zofris Maracas avec Et si demain.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Voilà, Peur et Phobie avec le magazine Cerveau et Psycho, qui sort donc, qui est même sorti depuis.
Qui est sorti depuis quelques jours.
Voilà, oui. Dans les kiosques, Sébastien Boller, vous en êtes le rédacteur en chef, le psychiatre Antoine Pellissolo à nos côtés, et par téléphone depuis la Belgique, le professeur de psychologie Pascal de Sutter. Alors, on s'amuse à demander aux auditeurs et aux twittos justement de nous donner leur liste de phobies. Ça marche plutôt pas mal, hein, parce qu'effectivement, il y a un vrai catalogue. Le nuancier piétonne, c'est son nom sur Twitter. Sa phobie, c'est l'hématophobie, donc la peur du sang. Kérim, ce sont les serpents. Anne, ce sont les araignées. Julien, la peur de l'échec. Tiens, ça fait partie des peurs, ça, Antoine Pellissolo, ou pas?
Non, je crois que c'est l'anxiété. Hein. Ça peut être une autre forme de gêne importante, mais ce n'est pas une phobie. C'est comme la fameuse phobie administrative dont on a dit que c'était plutôt une forme d'anxiété plutôt qu'autre chose.
Oui, avec Thomas Thévenoud. L'échecophobie, donc ça n'existe pas encore dans la liste. Olivier nous dit les criquets, surtout s'ils sont longs et gris, je cours très vite lorsque j'en croise un. Alors c'est étonnant parce que chacun a sa propre histoire, au fond, autour des phobies. Hein.
Oui, l'animal est un prédateur potentiel. Donc notre cerveau est préparé à se méfier de certains animaux.
Ce sont les phobies les plus répandues ou pas?
Oui, c'est ce qu'on comptabilise le plus sous des formes plus ou moins graves. Hein. Pour certaines personnes, c'est juste une peur forte, mais qui va être peu gênante. Mais c'est vrai qu'il y a une multitude d'animaux et on ne sait pas bien pourquoi. Certains un peu plus que d'autres quand même. Hein. La majorité, les palmarès, c'est les rongeurs, les souris, les rats, les serpents. Et puis après, ça tombe sur les animaux familiers, puisqu'ils sont quand même souvent là. Il y a la phobie du chat, qui est quand même assez répandue. Un peu moins des chiens, mais aussi. Ouais. Et puis les oiseaux.
La phobie des pigeons, hein, Sébastien, en ville, comme à Paris, par exemple.
J'avais lu quelque part que c'était la phobie la plus répandue, en tout cas ce qui concerne les animaux. Mais la question qui se pose quand on a parlé de prédateurs, c'est l'idée que ces peurs de certains animaux soient ancrées depuis très très longtemps dans notre système nerveux, comme un moyen de se préserver finalement des prédateurs, une façon de fuir des choses qui pouvaient être dangereuses ou vecteurs de maladies. Une des questions que j'ai vues le plus souvent dans les ouvrages scientifiques, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est ancré à la naissance? Par exemple, est-ce qu'un enfant va avoir naturellement peur d'une araignée ou d'un serpent quand il va la voir, ou est-ce que ça passe par un conditionnement, par une réaction des parents? Et il semblerait que ce soit un petit peu des deux. Alors j'ai eu des expériences très intéressantes qui montraient que, mais c'est fait par exemple sur des singes, on monte à des singes, soit des images de crocodiles ou de serpents qui peuvent être des prédateurs, soit des images de fleurs, de lapins, voilà. Et on montre ça à des petits singes qui n'ont jamais vu ni de crocodile ni de serpent. Ils n'ont peur de rien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de façon innée peur d'un crocodile. C'est la première fois qu'ils le voient. Ensuite, si la maman est à côté et leur montre comment il faut avoir peur, ou si on leur donne des petits chocs électriques qui font un peu mal dans les pattes pour associer le stimulus à une douleur, on voit qu'ils développent une véritable phobie du crocodile ou du serpent. Mais que si on fait pareil avec la fleur, le lapin, ça ne marche pas. Donc il y a une potentialité innée, mais qui doit ensuite faire l'objet d'un renforcement. Ouais. C'est un petit peu ce qui se dégage, je trouve, dans les recherches fondamentales sur les phobies. Et c'est assez intéressant. Ça montre qu'on a un petit fond quand même. Il y a des prédateurs.
Très ancré.
Voilà. Mais quand même, il y a un moment où l'attitude de l'entourage, l'apprentissage joue un rôle essentiel.
Pascal de Sutter, en novembre dernier, en pleine semaine d'Halloween, ce sont les clowns, surgis de nulle part, qui ont traumatisé les habitants de certaines villes. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cette petite psychose clownesque?
C'est-à-dire que c'est lié au masque, en fait. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau non plus. Quand des gens surgissent de manière masquée, il y a une vraie peur. Alors, le clown, par définition, soit il porte un masque, soit il porte un maquillage qui camoufle les traits de son visage. Mm-hmm. Donc, quand on ne veut pas voir le visage de quelqu'un, ça augmente assez spontanément la peur. Donc, c'est quelque part une peur qui est assez rationnelle, finalement, parce que les agresseurs, également, sont souvent cagoulés ou masqués. Donc, il y a un fond, je dirais, de rationnel. Et puis après, quand ça prend, évidemment, des proportions démesurées, ça devient problématique.
Oui, mais la peur des clowns est assez répandue, en fait, chez les enfants, hein?
Oui, bah, ils ont aussi peur dans le nord de la France et en Belgique, il y a aussi Saint-Nicolas. Et beaucoup d'enfants ont peur de Saint-Nicolas parce qu'il est quelque part déguisé aussi, il porte une grande barbe blanche. Ouais.
Mais ils ont peur du père Fouettard surtout, non?
Ça, il n'est pas politiquement correct, donc il a à peu près disparu. Donc il n'est plus autorisé, le père
c'est
Fouettard.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors Frédéric nous dit ceci sur franceinter.fr, le suffixe phobie ne me semble pas approprié en dehors du domaine psychiatrique. Quel suffixe pourrait le remplacer quand on veut décrire une haine, Antoine Pellissolo?
Je crois qu'il n'y en a pas, c'est ça le problème, effectivement. Bon, là, c'est le problème du langage, mais quand même, en arrière-plan, la xénophobie, ces peurs-là, qui sont l'islamophobie, évidemment, en ce moment, oui. Ces termes-là, qui effectivement veulent dire rejet, haine, etc., mm-hmm. probablement, en partie, au départ, quand même, sont motivés par des peurs. Être xénophobe, c'est avoir peur de l'autre, quand même. Alors, après, le rejeter, mais il y a un point... probablement des points communs, même si dans le langage aujourd'hui, il vaudrait mieux trouver un autre suffixe.
Ouais, Pascal de Sutter, sur l'islamophobie, justement, qu'est-ce que ça dit au fond ce terme?
Je pense que ce terme est vraiment tout à fait inapproprié, parce que ça dit des choses qui sont quand même un peu étonnantes, dans le sens où il y a une époque quand même assez récente où l'anticléricalisme, donc ne pas aimer la religion, en tout cas une certaine forme de religion, n'était pas considéré comme quelque chose de pathologique ou d'en soi mauvais. Donc il devrait quand même avoir un terme qui puisse définir des gens qui n'aiment pas l'islam, mais qui c'est leur droit, je crois, de ne pas aimer une religion, comme on peut ne pas aimer la religion catholique. Il y a des tas de gens qui n'aiment pas la religion catholique et qui la critiquent. C'est pas pour autant que ce sont des catholicophobes ou bien qu'ils doivent être persécutés ou condamnés pour ça. Et je pense que là, vraiment, c'est un bel exemple d'un usage d'un terme psychiatrique pour définir simplement une attitude vis-à-vis d'une religion.
Et vous dites que c'est une forme de racisme déguisé, en fait, c'est ça, hein?
C'est-à-dire qu'effectivement, il faut distinguer ce qui est du racisme, qui est vraiment donc une hostilité, et qui n'est pas spécialement d'ailleurs de la phobie. Il y a des gens qui n'ont pas peur de je ne pense pas que les nazis avaient peur des juifs, fondamentalement. Donc on peut avoir une hostilité très forte vis-à-vis d'une population, sans pour autant avoir de la peur. Et donc ça, c'est de la haine. Et donc on devrait plutôt parler à ce moment-là d'un terme qui définirait la haine de quelque chose. Ça, c'est une chose. Mais quand on parle d'une religion, on n'attaque pas spécialement des personnes. On peut ne pas aimer une religion, peu importe la couleur de peau des personnes qui pratiquent cette religion.
Sébastien Moller.
Oui, mais je crois que notre démarche avec Pascal de Sutter en publiant cet article, c'était justement au départ de constater que le terme phobie est vraiment servi à toutes les sauces.
Ouais.
Alors évidemment, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'était la phobie administrative, évidemment. On a senti qu'il y avait un mouvement dans le langage courant, dans la sphère publique, qui consiste à utiliser certains termes de la psychiatrie comme alibi, finalement, par rapport à des comportements douteux. Et en creusant un petit peu, effectivement, on est tombé sur Halloween, sur la peur des clowns, on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose de très net, la coulrophobie.
C'est le nom, il y a un nom donné.
La coulrophobie, c'est la phobie des clowns. Et alors, Pascal de Sutter a ensuite constaté qu'il existe dans certains écrits, beaucoup sur Internet, le terme paternatalophobie, c'est la peur la phobie du Père Noël.
Ouais.
Et effectivement, il y a des enfants qui ont peur du Père Noël. Alors, quand on commence à mettre ce suffixe derrière chaque mot, on ne sait plus où s'arrêter. Alors, il y a des gens qui ont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, qui n'arrêtent pas de se laver les mains ou de passer l'aspirateur, et qui commencent à se qualifier eux-mêmes de misophobes. C'est-à-dire, je suis misophobe, je ne supporte pas la saleté. En fait, du coup, ça donne des malentendus sur le véritable origine, le véritable mal-être de la personne. En fait, non, elle a une conduite obsessionnelle. Donc, c'est important, je crois, de faire la part des choses dans les significations des mots. Et évidemment, sur l'islamophobie, sur l'homophobie, c'est encore plus important. Et ça nous a amené aussi à plonger un petit peu dans la neurologie de ces phénomènes. On se rend compte que la haine, l'agression et la peur sont effectivement voisines d'un point de vue neurobiologique. Ça se situe d'ailleurs au sein d'une même petite structure du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Mais ce sont des subdivisions voisines de l'amygdale cérébrale qui peuvent interagir. Mais au départ, le foyer neuronal de l'action n'est pas le même. Et si la peur peut déboucher sur l'agression, bah, l'agression n'est qu'une des réactions multiples à la peur. Donc en détaillant comme ça les différents points de bifurcation, à la fois dans le cerveau et dans le volet comportemental, je trouve que ça apporte des éléments de réflexion pour chacun être honnête avec soi-même, se dire est-ce que j'ai peur ou est-ce qu'en fait je suis hostile ou les deux et comment ça s'articule.
Ouais, Antoine Pellissolo, intéressant de regarder dans le cerveau alors ce qui se passe pour avoir des réponses aussi à toutes ces questions.
Et oui, tout à fait. Et on a des réponses pour l'instant quand même assez limitées sur ces mystères de pourquoi on est phobique. On commence à comprendre comment on est phobique, par l'imagerie cérébrale notamment, ou les modèles chez les petits animaux, et puis aussi par le comportement, la psychologie. Mais par contre, la cause elle-même, ça, pour l'instant, on a du mal à définir pourquoi une personne est phobique et pas l'autre.
Oui, alors un message de François, je suis en train d'écouter l'émission. Je souffre d'un trouble anxieux généralisé. J'aurais aimé que vous évoquiez cette maladie difficile à vivre et surtout à expliquer aux autres. Est-ce qu'un trouble anxieux peut conduire à une phobie ?
Pour nous, donc en tant que médecins, ce sont deux choses un petit peu différentes. Ça méritera peut-être une autre émission. Parce que, comme on disait, l'anxiété, c'est un champ très large. Là, ce qu'on appelle maintenant le TAG, c'est pas très joli, mais trouble anxiété ou trouble anxieux généralisé, c'est plutôt les gens qui ont peur de tout, mais au sens de plutôt l'avenir, tout ce qui peut leur arriver. Donc, c'est pas fixé sur un objet. C'est plutôt, en gros, ce qu'on appelle couramment la personnalité anxieuse.
Ouais, c'est ce qu'on écoutait dans l'extrait tout à l'heure, d'ailleurs, de Monk, avec cet homme qui faisait une liste de toutes les phobies.
Oui, mais on peut avoir beaucoup de phobies, mais on peut aussi avoir juste peur de l'avenir. Et c'est plutôt ça, le tempérament anxieux, se faire du souci pour un rien, c'est plutôt ça, l'anxiété généralisée.
Ouais. Pascal de Sutter, est-ce que vous êtes capable de me dire comment on appelle la peur des mots jugés trop longs?
Effectivement, je ne le rappelle pas parce que c'est un mot extrêmement long. Et ça fait partie justement des canulars de toutes ces phobies inventées qui circulent sur le net, où on invente des mots pour qualifier ces phobies tout à fait fantaisistes.
Ah ben moi, je vais vous le donner parce que je l'ai sous les yeux. Je vais essayer, hein, Sébastien, de le dire. C'est l'hippopotomontrose qui pédaliophobie. Est-ce que c'est à peu près ça?
Oui, à mon avis, ça sonne quelque chose comme ça.
Allez, on se retrouve dans un instant.
We're stuck here with our many pains, with our letter tears, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always I try, always to disappear, it's not enough to die, no. And we're stuck here, here with our many pains, with our letters, our bigger pictures, is where we belong. All together, that's it, the strongest body of mine, this humanity, is what I love. What I hate me, no escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear, it's not enough to die, no. It's not enough to die. No, fear.
Jeanne Haddad avec A War Is Coming. La peur et les phobies. Sébastien Boller, Antoine Pellissolo et Pascal de Sutter sont là pour en parler et répondre à vos nombreux messages qui arrivent en ce moment. Beaucoup de commentaires. Quid justement, on en parlait tout à l'heure, de la phobie administrative, Cécile Michaud, parce qu'on en a parlé en souriant, en référence à Thomas Thévenoud qui a justifié ses négligences fiscales par une phobie administrative. Pascal de Sutter, peut-être là-dessus, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Bon, je pense qu'il faut distinguer. Il y a des gens qui, c'est vrai, il y a des gens qui réellement ont une aversion à classer leurs papiers, à ouvrir leurs factures, à s'occuper de l'administratif qui devient de plus en plus lourd dans les pays occidentaux. Et donc, effectivement, cette aversion peut prendre une ampleur énorme au point où les gens font de l'évitement, comme dans une phobie. Donc, ils évitent tout ce qui est administration. Mais je pense que le terme phobie est inapproprié parce qu'ils n'ont pas peur en soi des papiers. C'est pas quand ils rentrent dans leur bureau qu'ils sont effrayés de voir une facture ou de voir un papier.
Oui, ben justement, ils s'en occupent pas. Comme ça, au moins, c'est une façon de résoudre tout de suite le problème. La phobie sociale, Antoine Pellissolo, ça fait partie des grandes familles justement de phobies.
Alors là, par contre, c'est pas une invention du tout. On sait qu'à peu près 3 à 5% de la population générale, et notamment les jeunes, enfants, puis adolescents, adultes, peuvent souffrir d'une gêne qui peut être très forte, qui est au regard de l'autre. Au regard de l'autre, ça veut dire le jugement d'autrui. Et donc vont avoir des attitudes de peur importantes, voire de panique également, face à un groupe. Évidemment, on pense tout de suite à parler en public, ça c'est dur pour tout le monde, mais parfois même face à une seule personne. Donc ouais, ça crée quand même un handicap qui peut être très important, notamment quand on doit faire des études et s'insérer dans la vie.
Sébastien, vous revenez beaucoup dans le dossier d'ailleurs Cerveau et Psycho, sur l'agoraphobie. Parce qu'il faut mettre des nuances aussi à la façon dont on interprète ce terme.
L'agoraphobie, on en parle rapidement parce qu'en fait, l'article était plutôt destiné à faire la part entre les us et les abus du suffixe phobie et puis voir quelles étaient les phobies imaginaires comme les clowns, les Pères Noël. Et puis, effectivement, parmi les premières phobies les plus sérieuses, il y a l'agoraphobie qui est la peur des espaces ouverts, des grands espaces, qui est par opposition à la claustrophobie, évidemment, et qui est très handicapante et qui concerne quand même un petit peu moins de gens que la phobie sociale, je crois. Je ne saurais pas donner le pourcentage exact, mais c'est quelques pourcents. Mais voilà, c'est une des phobies qui, dans le manuel diagnostique de la psychiatrie, est une des plus avérées.
Et l'oclophobie, c'est la peur de la foule. Donc ça précise encore les choses, justement.
Ah bah alors, vous prenez quelque chose.
Il y a un terme, justement. Oui,
mais d'ailleurs, on englobe aussi, parce que certains mécanismes sont étonnants, mais peuvent être là aussi paradoxaux. On peut avoir la même peur dans les grands espaces, donc ce que vous appelez l'agoraphobie, mais qui maintenant inclut un peu la claustrophobie, parce qu'on peut avoir cette même peur dans un endroit confiné où on a peur de ne pas pouvoir sortir. Et les gens qui sont dans les grands espaces, en gros, c'est une grande place, c'est la montagne, la campagne, les autoroutes, ça peut entrer dans ce cadre-là, et peut créer le même sentiment d'angoisse parce qu'on se sent isolé dans le vide, d'une certaine manière.
Eh bien, on a le contraire, c'est Christine, justement. Moi, j'ai vraiment peur du ciel étoilé et de passer par-dessus les voies ferrées. Est-ce qu'il y a un lien avec la peur de l'infini, Antoine Pellissolo?
Alors, sous cette forme-là, peut-être une agoraphobie particulière, parce qu'on a rarement vu ça, mais ça correspond aux gens aussi, vous savez, qui ont peur, qui ont le vertige, acrophobie, et qui ont peur vers le haut, c'est-à-dire qui ont évidemment peur quand ils regardent en bas, mais parfois même quand ils regardent le haut, un grand immeuble, une sensation comme ça de vertige à l'envers.
Oui, je pense que c'est plutôt une sorte d'anxiété de l'absence de limite. On sait que c'est une direction vraiment très générale chez les mammifères, l'anxiété provoquée par les lieux qui ne sont pas limités. Et une souris qui est laissée dans un endroit où elle a le choix entre aller dans un endroit dégagé ou dans un recoin, va plutôt se tapir dans un recoin parce que c'est une façon de se protéger, de délimiter son territoire. Et l'être humain confronté à l'infini de la voûte céleste peut tout à fait voir ressurgir des espèces de pulsions d'anxiété comme ça primales qui ne correspondent pas à quelque chose de protecteur. Quelque chose d'infini, ce n'est pas protecteur. Donc la vue de la voûte étoilée est quelque chose d'assez étrange, il faut le reconnaître.
Pascal de Sutter, certaines phobies sont assez peu documentées. L'exemple de l'ornithophobie, on en a parlé, la peur des oiseaux, ou l'entelmophobie, la peur des vers de terre. Vous avez souvent croisé des patients qui souffraient de phobies insolites, apparemment.
Non, mais ça existe. Donc j'ai croisé des patients qui vraiment... même l'idée même de pouvoir approcher un vers de terre ou de croiser un vers de terre les empêchait de faire du jardinage, les empêchait de se promener pieds nus dans l'herbe. Donc c'était pas gravement invalidant comme d'autres peurs qui empêchaient parfois les mêmes gens de sortir, mais qui font que ça affecte leur mode de vie. Et donc là, on peut vraiment qualifier ça de phobie parce que c'est vraiment une peur disproportionnée, évidemment, par rapport au danger, puisqu'il n'y a aucun danger.
Alors, comment soigner ces phobies? Par exemple, en prenant le taureau par les cornes et en les affrontant peut-être directement. C'est ce qu'a choisi de faire, par exemple, la vétérinaire Laetitia Barlerin, qui est arachnophobe, donc elle a peur des araignées. Elle a décidé, c'est embêtant pour une vétérinaire, mais quand même, elle a décidé de rencontrer la spécialiste française des araignées, Christine Rollard, pour essayer de vaincre sa phobie, extrait d'un reportage de France 5.
Bonjour.
Ça va?
Ça va là?
Oui, oui, non, je vous fixe.
Voilà.
Hein? Non, il ne faut pas que je regarde. Non,
bon, on va s'installer au milieu.
D'accord.
De la place,
d'accord. Ok. Je m'installe ici.
Sur le fauteuil, ça sera plus à l'aise et plus détendant.
Il n'y a pas de
détendant.
Toile d'araignée déjà. Bon, je peux.
Voilà.
Déjà, quand je vois des photos d'araignées, je ne peux pas regarder. Mmh. Quand il y a un film à la télé avec des araignées, c'est pas possible.
Le but, c'est d'avoir un autre regard, puisque le regard est un peu déformé par rapport à deux aspects qu'on a souvent, c'est-à-dire la grosseur et la noirceur. Et on est vraiment là en présence d'une phobie qui a peut-être évolué déjà, hein, donc avec une peur très marquée, puisque maintenant on peut en parler.
Oui.
Qu'on est quand même dans une pièce. Oui, il y en a autour, même si on a un peu des œillères pour l'instant. On va faire ça progressivement, voir jusqu'où on peut aller, en fait, dans un laps de temps assez court. Donc on fait l'approche loupe. C'est bon, c'est
oui.
Ok.
Oh, quelle horreur. C'est moche.
Ah, elle est pas superbe. Je l'accorde.
Non mais on dirait un personnage de bande dessinée. Hein. Puis ça va, elle est pas noire.
Elle n'est pas noire, non, oui. Mais on en verra une plus tard.
Parce qu'à voir comme ça, c'est pas une araignée. Hein.
Eh bien, c'est une araignée. Est-ce qu'on peut apporter une autre?
Ah oui,
plus grosse.
Là, c'est bon. Yo.
Plus grosse?
Oui, oui, oui.
Ok, allez, on y va.
Ah.
Derrière.
Voilà la conséquence donc des phobies, la peur des araignées par exemple. Comment les soigner, Antoine Pellissolo? Est-ce qu'il faut s'y confronter directement ou pas?
Et c'est vraiment une méthode de base qui est tout à fait utile, effectivement.
Ça peut être traumatisant aussi, non?
Alors évidemment, il faut le faire avec un certain nombre de règles. On peut le faire par soi-même. La plupart des gens qui ont une phobie débutante à un moment donné probablement arrivent à la surmonter en faisant des petits efforts petit à petit. Et donc c'est la méthode qu'on utilise dans les thérapies qu'on appelle comportementales, qui consiste en fait à reprogrammer ou à déprogrammer cette peur qui est ancrée, on le disait vraiment, dans le cerveau tout à l'heure, dans la mémoire. Donc il faut réapprendre au cerveau à ne plus avoir peur, et c'est ce qu'on fait en se familiarisant avec l'objet, en comprenant quel est le danger ou quelle est l'absence de danger. Donc c'est en fait progressivement, hein, parce que comme vous disiez, il ne faut pas que ça soit un traumatisme supplémentaire, on le prépare, ouais. Mais c'est une façon de s'habituer.
Ouais. Donc,
bêtement, il y a un phénomène biologique et l'habituation sous-jacent, ouais. Et qui marche bien, en plus d'autres aspects psychologiques, évidemment, qui peuvent être bénéfiques, parce que ça ne se réduit pas juste à ce réflexe. Il y a le réflexe, mais il y a aussi tout l'imaginaire, toutes les habitudes. Donc, il faut revoir un petit peu ses comportements de manière...
Mais il y a des gens qui souffrent vraiment de phobies. Parce que là, on sourit sur certaines d'entre elles. Mais vraiment, certaines phobies peuvent être handicapantes, voire conduire à la dépression. Hein.
Bien sûr. Alors, on parlait des grosses phobies, entre guillemets, un peu complexes. Phobie sociale, agoraphobie. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement rester chez vous au lieu d'aller faire les courses et travailler. Donc, vraiment des conséquences importantes. Vous risquez, en tout cas, de modifier vos habitudes, de vous limiter dans pas mal de choses et de souffrir au quotidien, parce que phobie sociale, vous êtes obligé de croiser des gens tous les jours, ouais. Et ça provoque un stress, une usure qui peut mener à la dépression ou aux addictions par ailleurs aussi.
Pascal de Sutter, comment évoluent les phobies au fil du temps? C'est une question de Mar sur le site de La Tête au Carré.
Eh bien, elles peuvent, en général, si elles ne sont pas traitées, et si la personne continue à faire ce qu'on appelle donc l'évitement, c'est-à-dire que pour ne pas avoir cette sensation désagréable de peur, elle évite les situations, ça peut vraiment durer des années, prendre une ampleur importante. Et je rejoins ce que dit mon collègue, j'avais par exemple une patiente qui souffrait d'une phobie du métro. Alors au départ, elle ne fréquentait plus les métros, c'est assez simple, mais même après, elle avait peur des stations de métro, et puis elle avait même peur des rues où se trouvaient les stations de métro, et ça en est arrivé, elle n'osait plus sortir de chez elle. Donc elle était vraiment confinée chez elle par cette phobie du métro. Donc ça peut vraiment prendre des ampleurs extrêmement importantes.
Mais elle n'avait pas peur de prendre l'ascenseur, par exemple?
Par exemple, l'ascenseur ne lui faisait pas peur, non.
Ouais.
Mais des gens qui ont peur des avions, c'est très courant aussi. Ça les bloque dans leur carrière parfois parce qu'ils doivent voyager pour leur travail et ils sont bloqués. Et c'est vraiment dramatique parce qu'il faut savoir que le public le sache, ces phobies se traitent avec beaucoup d'efficacité et rapidement.
Allez, les phobies, faut-il en avoir peur? Antoine Pellissolo, vous signez ce livre aux éditions du Cavalier Bleu. Sébastien, donc le dossier de Cerveau et Psycho qui est dans les kiosques en ce moment.
Oui, avec un grand dossier consacré à la mémoire aussi.
Et Pascal de Sutter, vous avez sorti un livre récemment, hein?
Oui, c'est un livre qui s'appelle « Désir ». C'est un roman sexo-informatif qui est pour traiter un autre problème, qui est la diminution du désir sexuel chez les femmes.
Voilà, autre sujet, effectivement. Et vous êtes professeur à l'université de Louvain-la-Neuve. Il ne faut pas oublier
oui,
la Neuve.
En Wallonie. Louvain, c'est en
attention, si on ne veut pas déclarer la guerre. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Bonjour, Fabrice.
Bonjour, Mathieu.
Vous allez bien? Alors, vous nous avez confié tout à l'heure, hors antenne, je peux le dire.
Ah non, ma phobie?
Non, je peux pas dire votre phobie?
Parce que j'en ai une autre, moi.
Vous en avez plusieurs?
J'ai la non-historiophobie, j'ai peur qu'on me raconte pas des histoires, alors je me soigne. Et pour me soigner, j'en raconte une tous les jours
voilà.
Aux auditeurs de France Inter.
Vous avez fait une belle galipette, alors ce sera quoi le thème d'aujourd'hui?
Le juge Michel, l'assassinat du juge Michel le 21 octobre 1981, avec comme invité Éric Pelletier, auteur avec Jean-Marie Pontaud du livre intitulé « Qui a tué le juge Michel ?»
L'affaire sensible de Fabrice Drouel, à tout à l'heure, merci.